Restons courtois. Richard de Sèze.
Chers amis, bienvenue dans cette deuxième partie. Dans la première partie, nous parlions du désir sexuel, une pulsion de vie qui se terminait d'ailleurs par le fait d'accepter joyeusement d'être vivant. Et là, nous allons parler d'autre chose, d'une pulsion de mort, avec à l'occasion d'une soirée que les éveilleurs vont tenir dans deux jours, le 4 juin, une soirée autour de l'euthanasie à l'auditorium Marbeau, donc 69 rue Boissière, dans le 16e arrondissement. J'ai tout noté sauf l'heure.
20h30.
À 20h30, voilà. Donc, cette soirée du 4 juin sera l'occasion pour les éveilleurs donc, de réunir un plateau impressionnant dont nous avons distrait une seule personne aujourd'hui, Elisabeth de Courage. Bonjour madame.
Bonjour.
Voilà. Vous êtes ergothérapeute à l'Institut Jeanne Garnier. Donc, je ne sais pas si c'est un institut à Jeanne Garnier.
Oui,
donc,
c'est une maison médicale.
Une maison médicale qui est évidemment très connue à Paris pour être la Rolls-Royce des soins palliatifs.
En tout cas, la plus grande d'Europe.
Voilà, la plus grande d'Europe. Et évidemment, pour ceux qui ont eu l'occasion, comme moi, d'y accompagner quelqu'un, des équipes absolument remarquables. Victoire de Gégère, vous êtes agrégée de philosophie et vous faites partie des éveilleurs qui sont ceux qui organisent cette soirée. Dites-nous en deux mots ce que sont les éveilleurs.
Alors en deux mots, les éveilleurs sont une association qui est née en 2015, qui a été montée en 2015. Un petit peu comme réaction, en tous les cas une tentative face à la multiplication des lois sociétales de ce moment-là. C'était à la suite de la loi sur le mariage pour tous. Et puis bon, face aux grands mouvements de changements sociaux qui avaient lieu, les éveilleurs ont voulu en fait incarner l'idée qu'il restait une génération qui croyait, face à l'idéologie un peu libérale, libertaire, qui croyait à l'existence encore des attachements vitaux, qui croyaient à l'importance de la famille comme cellule de base de la société, de l'école comme lieu de transmission, de la politique comme lieu de recherche du bien commun, et à, bien sûr, la dignité de la personne, de la conception jusqu'à sa mort naturelle. Et donc, les éveilleurs ont voulu créer une association qui donnerait l'occasion à un certain nombre de personnes, des historiens, des hommes politiques, des journalistes, des intellectuels ou même des hommes d'action de terrain, de présenter leur travail, leur action, de discuter, de débattre éventuellement. Bref, d'organiser, les éveilleurs ont voulu organiser des conférences, des soirées et des émissions sur des sujets d'actualité, de politique, d'histoire et de société.
Et les éveilleurs, ils ont réussi, puisque voilà, 11 ans plus tard, ils sont toujours là, et avec cette soirée dédiée à l'euthanasie. Elisabeth de Courage, donc dans votre travail à Jeanne Garnier, évidemment, vous fréquentez la mort, sinon quotidiennement, du moins très souvent. Comment percevez-vous la manière dont on essaie à tout prix, Yael Braun-Pivet et Emmanuel Macron en tête, de nous vendre l'euthanasie? Alors évidemment qu'on n'appelle pas ça l'euthanasie quand on est des gens chics, on appelle ça l'aide à mourir, mais comment percevez-vous la manière dont on tient absolument à nous forger l'euthanasie comme étant la chose la plus digne et la plus nécessaire?
Alors déjà, juste pour ajuster un petit peu, en ce moment je suis en unité Alzheimer, mais j'ai été 10 ans en soins palliatifs, donc j'ai beaucoup côtoyé la fin de vie. Et la mort aussi de surcroît. Moi, ce que je trouve assez étonnant, c'est finalement, j'ai l'impression qu'en fait, cette loi nous arrive un peu comme un rouleau compresseur, alors que la majorité des soignants et des soignants sur le terrain s'expriment contre cette loi. Nous, on se rend compte qu'en fait, les personnes que nous accompagnons, quand elles sont considérées, soulagées et voilà, quand on prend soin d'elles, eh bien finalement, elles peuvent partir paisiblement. Et moi, je n'ai jamais vu personne partir sans dignité. Hein. Je crois que la dignité, elle est en chaque personne. En revanche, c'est vraiment notre mission de tout faire pour que les personnes puissent prendre conscience de leur dignité. Et c'est, je crois, ce que, voilà, avec mes collègues, tout ce que nous essayons de faire. Et on se rend compte que voilà, les personnes partent en étant entourées, soulagées, considérées. Et finalement, cette loi, ben, ce n'est pas du tout un besoin pour nous. Et j'ai l'impression qu'on vient nous l'imposer là où sur le terrain, on a bien des besoins, mais pas celui-là.
Est-ce que cette loi n'est pas imposée parce qu'il y a une perversion dans le discours politique? On va présenter donc le texte de la fin de vie comme un soulagement pour empêcher de souffrir. Et ça, tout le monde est d'accord pour dire qu'on ne veut pas souffrir, qu'on veut partir paisiblement. Mais là où il y a une perversion dans le débat politique, dans le discours des politiques, c'est qu'ils ne présentent absolument pas la réalité de ce qu'est une unité de soins palliatifs. Pourquoi il y a cette volonté de nier le travail que vous menez en tant que soignant dans les unités de soins palliatifs.
Peut-être qu'en face, il y a des gens qui ont un pouvoir un peu plus fort que le nôtre. Moi, je suis assez toujours étonnée du nombre de politiques qui viennent, qui passent à Jeanne Garnier, qui serrent la main de tout le monde, qui reconnaissent que tout le monde fait un travail formidable, puis qui sont à peine sortis de la maison, ils se retrouvent sur le perron face aux journalistes et ils disent « mais il faut que la loi évolue ». Donc il y a quelque chose pour moi de très dissocié, très dissonant par rapport à, voilà, au fait qu'ils viennent reconnaître la qualité et la beauté du travail sur place. Voilà, tout n'est pas parfait, mais vraiment, il y a vraiment un travail de belle qualité, d'une grande créativité. Et c'est aussi cette qualité des soins qui a été rendue possible par cet interdit de tuer. En fait, l'interdit fondamental de tuer, c'est pas seulement un principe moral, c'est aussi parce qu'il y a eu cet interdit de tuer qu'on a été obligé de chercher des alternatives et qu'on a développé des soins palliatifs de qualité qui, voilà, qui présentent une créativité, une compétence reconnue. Là où en Belgique, voilà, j'ai fait mes études juste à côté, donc j'y suis souvent passée. Je ne dis pas qu'on donne l'euthanasie par facilité, mais de fait, on cherche moins d'alternatives parce que c'est une possibilité. Nous, cet interdit de tuer, il est un peu la condition de notre compétence, voilà, de la performance des soins, de la qualité de l'écoute, de la confiance aussi entre patients et soignants. Et du coup, je pense que c'est... Voilà, jusqu'au bout, j'essaierai de témoigner de cette réalité, de ce réel que l'on touche de nos doigts, que l'on voit de nos yeux. Et voilà, même si en face, il y a une loi qui, on voit bien, n'émerge pas du terrain, mais probablement d'autres groupes voilà, qui ont plus de pouvoir. Voilà, on témoignera jusqu'au bout. Et puis, comme disent mes collègues, on fera notre travail jusqu'au bout.
Jusqu'au bout Victoire de Gégère, c'est aussi la mission des éveilleurs, voilà. Et en même temps, il y a presque un certain espoir, c'est-à-dire cette loi, on nous avait promis qu'une fois de plus, et vous avez raison, je pense, Elisabeth de Courage, de parler de rouleau compresseur, une loi sociétale de plus, où on allait voir ce qu'on allait voir, et le progrès allait nous tomber sur la gueule, mais comme une averse de tout à l'heure. Et au fur et à mesure, on se rend compte que une partie des parlementaires s'y oppose, le Sénat vient de retoquer deux fois la loi en supprimant les articles les plus importants, qu'une partie des parlementaires de l'Assemblée nationale a l'air de considérer qu'effectivement on pourrait peut-être s'abstenir, peut-être ne pas voter, peut-être trouver que en fait aller faire un tour en circonscription ce jour-là serait une bonne idée. Le gouvernement est en train d'expliquer que la commission mixte parlementaire échouera sans doute à trouver une solution. Donc l'espoir renaît ou pas du tout?
Alors, est-ce que l'espoir renaît
Si tant est qu'il n'est jamais faibli.
Oui, nous en parlions juste avant. En fait, le fait que la commission mixte paritaire ait échoué aujourd'hui n'est pas une bonne nouvelle, puisqu'en fin de compte, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale sur les et qu'on sait que l'Assemblée nationale est plus favorable que le Sénat au projet de loi sur l'aide active à mourir. Donc, est-ce que l'espoir renaît? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est très intéressant de voir qu'effectivement cette loi c'est pas encore terminé, mais que la discussion sur cette loi est si longue, a connu autant de rebondissements, et ça invite évidemment à s'interroger sur les raisons. Et il y en a beaucoup, je pense, dont certaines m'échappent sûrement, mais moi il me semble qu'il y en a deux, trois qui sont intéressantes, et notamment, vous parliez des lois sociétales déjà passées, je pense que la question de l'euthanasie illustre peut-être le fait que les Français sont beaucoup moins dupes, ou enfin tous les cas ne sont plus dupes, je pense, de l'argument qui a accompagné la plupart des lois sociétales, qui était l'argument du cadre. C'est-à-dire que quand il y a eu la loi Veil, puis ça a été pareil pour la PMA, à chaque fois, un des arguments principaux, c'est de dire, bah voilà, on est face à une situation de fait qui est terrible. Il y a beaucoup de femmes qui avortent, il y a beaucoup de couples infertiles, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Dans cette situation, c'est toujours les gens riches qui tirent leur épingle du jeu parce qu'ils partent à l'étranger, parce qu'ils peuvent faire leurs choses dans leur coin et on n'ira jamais trop les embêter, alors que c'est les personnes plus seules, plus pauvres, plus en détresse qui subissent la réalité du terrain. Ça a été vraiment très clair pour la loi Veil. On disait, voilà, c'est les femmes pauvres qui avortent de manière douloureuse, dangereuse. Et donc, il faut un cadre. Il faut un cadre pour que tout ça devienne médical et que grâce à la loi, il y ait plein de conditions. Donc, ce sera resserré. Donc, on peut espérer qu'il y en aura moins. Et en plus, ce sera médical et donc ce sera propre, ce sera hygiénique, ce sera accompagné. Et pareil pour la PMA, c'est uniquement pour les couples atteints d'une maladie, d'infécondité, homme-femme. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'au fur et à mesure que les années passaient, eh bien, toutes les petites conditions de la loi Veil ont sauté les unes après les autres. Pareil pour la PMA. Et puis on a vu que surtout le nombre ne réduisait pas et qu'il y a aujourd'hui 200 000 avortements par an et ni la loi Veil ni la contraception généralisée ne change ça. Et donc cette idée que le cadre allait nous préserver, aujourd'hui on se rend compte, c'est une expression je crois que Jean-Marie Le Ménet emploie souvent, aujourd'hui on se rend compte qu'en fait ce cadre sert juste à dériver avec et nous dérivons avec le cadre au fur et à mesure. Et ça, il y a peut-être, dans la société française, une prise de conscience de ça. C'est-à-dire de cette idée que, oui, là, on nous dit au moins l'euthanasie, sera encadrée, ce sera vraiment très strict, tu auras des critères, notamment le plein consentement, très libre, très éclairé. Eh bien, peut-être qu'il y a une inquiétude là-dessus et qu'en fait, les Français, on se rende compte qu'il est tout à fait possible que dans les 5-10 ans à venir, tous ces critères protecteurs sautent. Et c'est la deuxième raison qui, à mon avis, va avec, c'est la question de l'identification. Comme notre société réfléchit beaucoup au sujet par identification, c'est-à-dire en se demandant quelle serait leur situation à eux, eh bien, on est face à cette idée, bah, en fait, si moi, dans 10, 15, 20 ans, mes parents, mes grands-parents ou moi-même, je suis dans cette situation, eh bien, est-ce que j'ai pas un peu peur de l'idée que le médecin puisse ne plus forcément attendre mon plein consentement? Est-ce que je n'ai pas peur que du coup les soins palliatifs soient moins développés, qu'on m'accompagne moins, pour une raison très intéressante à laquelle je n'avais jamais pensé, mais que vous disiez, qu'en fait l'interdit de tuer nous oblige à être meilleurs dans le soin. Si on enlève ça, on ne sera plus obligé, donc on deviendra moins bon. Et donc je pense qu'il y a cette espèce de double processus, au-delà de plein d'autres critères possibles, hein, mais qui doit expliquer un peu cette opposition très inattendue, effectivement, à la question de l'euthanasie.
Avec des gens de l'extrême gauche à l'extrême droite, pour parler comme un journaliste de Libération, qui dénonce à l'extrême gauche le validisme et à l'extrême droite la rupture anthropologique, où effectivement, voilà des députés gras et satisfaits d'eux-mêmes, je parle de certains sénateurs, ou au contraire fringants et satisfaits d'eux-mêmes, et le nez tout empoudré, qui viennent nous expliquer que voilà, la dignité, c'est le corps en bonne santé, et que donc dès que la santé défaillit, c'est la dignité qui serait attaquée. C'est quelque chose que vous n'avez pas du tout ressenti dans l'exercice de votre profession.
Oui, je rebondis un petit peu sur ce que disait Victoire, mais je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est que finalement, il y a eu une évolution de l'opinion parce que les débordements du cadre ont presque eu lieu en même temps que l'élaboration de la loi. Il y a eu un premier texte qui parlait seulement pour les personnes qui avaient des souffrances physiques, puis un deuxième texte qui incluait en fait les personnes avec des souffrances psychologiques, avec la dimension de fin de vie qui était beaucoup plus optionnelle quelque part. Et du coup, ça a commencé à concerner énormément de personnes en situation de handicap. Donc en fait, il y a énormément de gens qui tout d'un coup se sont dit « mais en fait, je suis presque éligible ». Il y a même un collectif qui s'est monté comme ça, les éligibles. Je me sens éligible à cette loi alors que je ne suis pas du tout en fin de vie. Et donc, on a fait peser sur ces gens une pression à choisir entre vie et mort à un moment où ils ne se posaient pas du tout cette question. En plus, enfin, voilà, vraiment, je pense qu'il y a des gens qui ont pris conscience qu'il y avait déjà eu un peu des débordements du cadre. On a même mis dans la loi une possibilité que des gens sous tutelle fassent cette demande sans l'avis de leur tuteur. Donc imaginez, ils doivent demander l'avis de leur tuteur pour acheter un appartement. En revanche, ils pourraient demander une euthanasie sans l'avis de leur tuteur. Donc je pense qu'il y a eu un peu une évolution de pensée parce qu'il y a eu ça a été poussé dans des extrêmes assez impressionnants. Et sur la question de la dignité, voilà, c'est vrai que on apporte souvent à la dignité cette vision de la performance. Moi, je vais vous raconter une histoire, c'est celle de Monsieur G, un ancien grand patron de laboratoire pharmaceutique, un grand sportif, voilà, qui avait voyagé sur tous les continents sauf l'Océanie, c'était son grand regret, et qui, voilà, une vie, voilà, avec des belles études, un beau métier, une belle famille, beaucoup de sport, et, voilà, il grimpait en montagne, et puis un jour, c'est la chute, on lui annonce un cancer, et il commence à ne plus pouvoir s'habiller seul, se laver seul, et il arrive dans notre clinique. Et il arrive en nous disant « je préfère mourir que de me voir diminuer ». Donc vraiment cette vision que sa vie avait de la valeur parce qu'elle était en augmentation. Donc s'il diminuait, il préférait mourir. Pour lui, ça n'avait plus de valeur. Et ce monsieur donc voilà, avait vraiment cette plainte-là. Nous, on s'est engagés à faire notre métier, à savoir l'aider à vivre ce qu'il lui restait à vivre, pas plus, pas moins. Et puis ce monsieur, en fait, il était dans une chambre et à côté de sa chambre, à lui, il y avait une petite dame un peu désorientée et malvoyante. Elle se trompait tout le temps de chambre et elle allait chez lui, ce qui rajoutait un peu à sa souffrance. Et un jour, il est arrivé dans le bureau de l'équipe, on s'est dit « ah non, il va encore dire que voilà, que ça ne va pas ». Et là, il nous dit « vous savez, cette dame, j'ai compris qu'elle avait peut-être besoin que je l'aide ». Et à partir de ce jour-là, il l'a prise sous son aile, Il l'accompagnait au repas, il allait lui chercher son courrier à l'accueil. Puis il a fait ça pour cette dame, pour le voisin de cette dame, pour le voisin du voisin de cette dame, et après pour toutes les personnes de son étage. Et à partir de ce jour-là, on ne l'a plus entendu dire « je préfère mourir que de me voir diminuer ». Et quand son cancer s'est aggravé, il est parti dans une unité plus aiguë. On lui a dit « monsieur, vous allez mourir ». Et il a voulu revenir dans cet étage. Et, je me souviens encore quand il est revenu, il a dit « j'ai découvert ici une nouvelle valeur de vie ». Et voilà, moi je fais vraiment le lien avec ce service qu'il s'était trouvé pour cette dame. Et ça m'a forgé la conviction que la fin de vie est encore un temps du possible, un temps où on peut trouver du sens, un temps qui n'est pas moins important que le reste. Et un temps voilà, où on ne perd jamais sa dignité, qui, voilà, comme le rappelle la Déclaration des droits de l'homme aussi, hein, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité. Elle est ontologique, on ne peut pas la perdre, on ne peut pas la réduire. C'est pas parce qu'on a une jambe en moins qu'on a de la dignité en moins. On a de la dignité jusqu'au bout de sa vie. Tout l'enjeu est d'aider les personnes à en prendre conscience. Et c'est davantage en les soignant, en leur donnant de l'amour plutôt que de la mort, que l'on peut le faire.
Alors, si jamais demain le texte est adopté, vous disiez tout à l'heure qu'avec vos collègues, vous feriez votre travail jusqu'au bout. Mais quel pourrait être l'avenir des soins palliatifs? Est-ce que cela resterait préservé, protégé? Ou est-ce que cela serait une forme d'opposition à la loi, de contradiction avec ce qui a été voté? Même si, il y a quelques mois, un texte sur les soins palliatifs a été voté à 100% à l'Assemblée nationale. Est-ce que, pour reprendre l'image du cadre que vous présentiez tout à l'heure, Victoire de Gégère, est-ce que justement ce cadre ne pourrait pas dériver jusqu'à la suppression un jour des soins palliatifs?
Oui, alors il y a ce volet, hein, sur les soins palliatifs qui est quand même un soutien financier conséquent. Toutefois, voilà, comme je pense, à mon avis, les deux modèles ne sont pas compatibles. Et puis il y a cette grande difficulté qu'on a, qui est le risque d'être puni si on entrave la personne. Voilà, le délit d'entrave, si jamais on déconseille à la personne d'avoir recours à l'aide à mourir alors qu'elle le veut, on est passible de 30 000 euros d'amende et de 2 ans d'emprisonnement. Donc, on a une grande difficulté parce qu'en fait, nous, tous les jours, on essaie de témoigner à la personne la beauté de sa vie. Donc, c'est extrêmement dur pour nous d'aller à l'encontre de ça. Et donc il va falloir éternellement, je pense, se reprendre, se restreindre. Enfin, j'ai peur que du coup notre quotidien de soignant n'ait plus beaucoup de sens. Et puis alors, d'un point de vue, ensuite on pourra normalement refuser de pratiquer ou de prendre part à l'acte de manière individuelle, mais pas de manière institutionnelle. Donc ça va aussi un peu à moins que des établissements entrent un peu en résistance, et voilà, il y a des communautés religieuses notamment qui ont d'emblée annoncé qu'elles le feraient. Voilà, les institutions, en fait, on va se retrouver aussi au sein d'institutions un peu partagées entre les quelques soignants qui sont d'accord pour le faire, ceux qui ne sont pas d'accord, et ça, je pense que ça va être extrêmement tendu comme division. Donc, j'ose espérer que beaucoup d'établissements oseront s'opposer de manière institutionnelle pour qu'on puisse préserver la nature même de notre travail actuel.
D'un point de vue philosophique, Victoire de Gégère, quelle est aujourd'hui la place de la dignité dans la société, puisque beaucoup de personnes, notamment des personnes âgées, disent « mais moi je suis pour cette loi sur l'euthanasie parce que j'ai eu une belle vie, puis surtout je ne veux pas être un poids pour mes proches ». Comment on en est arrivé à dissocier à ce point les fondements de la civilisation grecque, où on mettait au cœur de la cité les plus fragiles? Comment on a pu à ce point oublier ce qui fait la beauté de notre civilisation tout de même?
La question de la dignité, elle est très intéressante. En fait, à l'origine, le terme même de dignité est moins grec que romain, mais qui est assez différent de chez nous. C'est-à-dire que la dignitas, c'est un honneur que vous recevez avec une charge. Vous recevez une charge politique et en même temps l'honneur qui va avec. Et donc vous le recevez parce que vous méritez, mais pas, vous devez le recevoir. C'est votre mérite intérieur, mais ça doit vous être donné. Et en fait, c'est la pensée chrétienne qui a véritablement intériorisé la dignité en disant oui, c'est vrai, on reçoit cet honneur, mais on le reçoit de manière interne. On le reçoit parce que nous sommes des hommes, nous sommes des personnes humaines. Et en tant que personnes humaines, nous avons, et là on retrouve les concepts grecs, mais qui n'étaient pas encore allés jusqu'à cette idée de la dignité de tout homme, nous sommes des êtres qui possédons une nature rationnelle et raisonnable. Et cette nature rationnelle et raisonnable nous permet en fait de connaître la vérité, de connaître le bien, de connaître le juste et de le distinguer de l'erreur, du mensonge, du faux, du mal. Et c'est cette nature raisonnable et rationnelle qui nous rend capable du bien, qui nous rend capable d'être libre et qui donc fonde notre dignité. Et donc la pensée chrétienne alors, a en plus ajouté à cette dimension strictement philosophique cet aspect encore supérieur que nous sommes en plus créés à l'image de Dieu. Et en tant que créé à l'image de Dieu, enfin, cette nature raisonnable est la marque de notre imitation divine. Et donc là, évidemment, la dignité est pleine et entière et totalement intrinsèque. Ce qui a changé d'un point de vue philosophique, alors c'est compliqué. Vous parliez tout à l'heure de la Déclaration des droits de l'homme. Il y a plusieurs étapes, mais pour rester assez clair, je pense qu'actuellement, l'élément qui a vraiment... transformer notre conception de la dignité, enfin, un des éléments fondamentaux, c'est le concept d'autonomie, c'est l'idée d'autonomie. C'est-à-dire qu'on dit que l'être humain est un être autonome parce qu'il a dans son génome la capacité, dès la conception, de se développer par lui-même. Et donc, à partir de la conception, il y a déjà tout ce qu'il faut pour l'être que nous serons tout au long de notre vie et rien ne lui est rajouté. Donc, nous sommes déjà autonomes. Et en fait, cette autonomie, à ce sens de l'autonomie biologique, on va dire, s'ajoute la question de l'autonomie au sens propre, qui veut dire « autonomos » en grec, c'est se donner à soi-même sa propre loi. Et donc, en fait, le moment de rupture a été un moment politique, c'est le moment du contrat social, enfin, politique et philosophique, le moment du contrat social de Rousseau au XVIIIe, puis après avec la Révolution française, les droits de l'homme, enfin les Lumières, qui dit « bah en fait, puisque nous sommes autonomes, nous devons pouvoir très concrètement nous donner à nous-mêmes notre propre loi. » Et donc, il n'y a aucune raison que nous dépendions des autorités traditionnelles, l'Église, la monarchie, la tradition, nous devons, comme peuple, nous donner à nous-mêmes notre propre loi. Et donc, on fait un contrat social, on fait une assemblée constituante qui décide, à partir de maintenant, notre loi, c'est ça. Et c'est ça parce que nous le voulons tous, c'est la volonté générale, on le décide. Donc, étape philosophique et politique. Et l'étape maintenant actuelle, c'est que puisque nous sommes autonomes, puisqu'en tant que peuple, nous nous donnons notre propre loi, eh bien, individuellement aussi, nous sommes autonomes. Et donc, individuellement, nous devons pouvoir nous donner notre propre loi. Et se donner sa propre loi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pouvoir choisir ce qu'on veut, choisir notre état de vie, choisir éventuellement notre genre, choisir nos traitements, et choisir, évidemment, si nous voulons mourir ou si nous voulons continuer à vivre. Et donc, en fait, pour être autonome, il faut avoir un minimum de capacité physique, puisqu'il faut avoir vraiment la capacité de choisir, de dire « ça, je veux », et je vis en conséquence, ou ça je ne veux pas, ou ça je ne peux pas vivre en conséquence. Et donc il y a eu une espèce de mélange conceptuel et social de cette conception de ce que c'est que la dignité, l'autonomie et la liberté. Et aujourd'hui, être autonome, c'est pouvoir se donner à soi-même sa loi, pouvoir choisir, et donc pouvoir décider est-ce que je veux être soigné ou pas, et donc est-ce que je veux vivre ou est-ce que je veux mourir. Mmh. Et donc on envisage ça uniquement d'un point de vue individuel, c'est mon droit et mon autonomie, en le retirant de la dimension... collective, politique, spirituelle, oui. Morale.
Parce que ce que nous apprend votre exemple, Elisabeth de Courrèges, c'est que par rapport à cet individu autonome, tout sachant, tout puissant, capable de décider de son propre sort, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement contingent. Si je suis seul, effectivement, je peux nourrir des pensées morbides. Si je suis en communauté, ces pensées peuvent prendre un tour différent. Cette personne qui tenait absolument à mourir a découvert un sens à sa vie, par la relation qu'elle avait avec les autres, et du coup, ça allait mieux. On est en train de promouvoir, comme d'habitude, une espèce d'individu idéal qui ne correspond pas du tout à ce que nous sommes, nous, personnellement, c'est-à-dire des êtres fondamentalement en relation, et non pas des monades frôlant les autres quasiment par hasard.
Oui, et puis aussi, c'est extrêmement juste, et puis je pense aussi que c'est tout un rapport à la fragilité qui évolue. Voilà, on a un peu cette idée d'une dignité de posture, d'autonomie. Enfin voilà, je peux me, marcher seule, tenir debout, je peux me tenir, me retenir, me contenir. Bah, c'est vrai que la maladie, elle vient ébranler tout ça. On a plus de mal à se retenir, à se contenir, à se tenir. Et en fait, mais ce dont on se rend compte, c'est que bien sûr, nous qui sommes pas malades, enfin voilà, nous ne pouvons pas, je vous le souhaite, en tout cas, c'est difficile de se représenter ça, mais voilà, les personnes qui se retrouvent dans une situation de fragilité, eh bien, elles trouvent quand même, par la relation, par l'accompagnement, du sens. Et en fait, on se rend compte que bah, beaucoup qui, en arrivant, voulaient mourir, on se rend compte que ces personnes changent d'avis. Moi, j'ai même eu un moment un numéro 2 de la DMD, donc l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui est une des associations qui milite principalement pour l'aide active à mourir en France, qui, bah, au sein de notre établissement, a changé d'avis au bout de 3 semaines. Donc, je pense que voilà... C'est difficile peut-être à entendre quand on va bien, mais ce que je veux dire, c'est que dans la situation de fragilité, eh ben, parfois on peut trouver un sens voilà, à condition d'être accompagné, soulagé.
Pardonnez-moi.
Et de consentir à cette dimension-là aussi.
Priorité au chef.
Non, c'est pas le chef, c'est priorité aux auditeurs. Vous savez à quel point nous sommes attachés à la démocratie, à Radio Courtoisie et surtout dans mes émissions. Le professeur Lucien Ismaël, cancérologue, a déclaré « L'euthanasie, c'est simple, ce sont les bien portants qui tuent les malades ». Et le professeur Lejeune, que vous citiez tout à l'heure, Victoire de Jagère, on n'a jamais vu un trisomique se suicider. Alors, il nous pose aussi d'autres questions. Par exemple, êtes-vous informé de la proposition de loi référendaire du sénateur Spisner déposée il y a quelques jours ? Voilà, donc effectivement, le sénateur Spisner veut déposer une loi référendaire sur justement la fin de vie et l'ensemble des choses qui gravitent autour, mais une proposition de loi référendaire évidemment très différente de celle que Macron agite depuis quelque temps. Et dernière intervention de nos auditeurs. Qui est un commentaire. Avec cette nouvelle loi sur l'euthanasie, les médecins dans les hôpitaux vont obligatoirement avoir à appliquer les ordres du ministère de la Santé pour l'euthanasie quand ces hôpitaux seront saturés de personnes âgées. Concernant les plus jeunes, l'ordre viendra de l'opportunité des prélèvements d'organes. Les fragiles seront supprimés au profit des riches, comme pour la GPA pour la fabrication des bébés. Nous sommes dans un cheminement démoniaque. Victoire de Gérard, est-ce que vous avez quand même ce côté grand capital organique social que nous présente l'État en nous expliquant qu'en gros l'État de l'individu ne s'appartient pas à lui-même mais qu'il appartient à l'État, qu'on doit donner nos organes sauf si on précise, donc que nos organes sont réputés déjà donnés sauf si on en fait la demande express de ne pas les donner, on stigmatise ceux qui sont assez égoïstes, on nous explique qu'il faut avorter ou mourir en fonction de ce que le corps social réclame et du coup que nous faisons supporter à la société avec nos projets d'enfants incongrus ou au contraire nos désirs de vie alors que nous sommes indignes. Cet auditeur dresse quelque chose d'apocalyptique mais qui ne paraît pas en fait totalement incroyable.
Oui, c'est vrai. Alors, je suis pas une spécialiste du don d'organes, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un argument dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il y a évidemment dans ce projet de loi et cette question de l'euthanasie une dimension économique, qui est un peu masquée parce que ce serait indigne. Bah, du coup, ça devient compliqué d'employer ce terme parce qu'on ne sait plus dans quel sens on l'emploie, mais ça choquerait évidemment si on disait il faut absolument une loi sur l'euthanasie parce que ça coûte trop cher de soigner les personnes âgées ou malades, donc légalisons l'euthanasie et comme ça on gagnera de l'argent et on fera des économies. Donc évidemment, c'est pas du tout dit comme ça, mais c'est de notoriété publique qu'il y a un enjeu économique et qu'il y a derrière la volonté de l'État de faire des économies. Et donc, à ce niveau-là, c'est évidemment en soi profondément scandaleux de se dire que l'État peut...
Oui, il y a de fait des mutuelles qui se sont engagées pour soutenir ce projet de loi. Donc, je pense qu'elles y trouvent des intérêts
économiques. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et là, oui, c'est sûr qu'on rentre dans une dimension absolument sidérante d'imaginer qu'un État qui est là normalement pour... encore une fois, organiser la vie commune, le bien des citoyens, et puis s'occuper autant que possible de soutenir les plus faibles, met en priorité des besoins d'argent sur la vie des personnes, effectivement.
Mais justement, est-ce que nous ne vivons pas dans une société où on ne cherche plus à accompagner, mais tout simplement à, pardonnez l'expression, mais à évacuer le problème typiquement, dans certaines régions de France, il y a de vrais déserts médicaux. On ne cherche pas à permettre à de jeunes médecins de venir s'installer. Il y a des femmes qui doivent faire 45 minutes de route pour aller à la maternité la plus proche. Il y a des généralistes qui n'existent pas dans certaines régions de France. J'ai l'impression qu'on vit dans une société où on pourrait mettre ça en place, mais peut-être justement que c'est la question de l'argent qui entre en compte, mais on ne cherche plus à accompagner. Et donc, pour rejoindre le sujet des soins palliatifs, qui est un travail d'accompagnement, ça n'arrange personne, en fait. Enfin, ça n'arrange personne. Personne dans le sens politique du terme.
Ça arrange tous ceux qui en profitent, mais pas les autres.
Voilà. Et puis certains sont bien contents, enfin même des promoteurs de la loi sont contents d'avoir leurs parents en attendant qu'ils meurent à Jeanne Garnier. Donc c'était assez paradoxal, mais après c'est vrai que je pense vraiment, en effet, nous, c'est vrai que ça coûte plus cher. C'est vrai, je vais pas mentir. Quand je vais témoigner dans des lycées, c'est souvent la première question qu'on me pose, mais est-ce que ça coûte pas cher? Il y a beaucoup de jeunes qui se posent cette question, ils disent, mais de toute façon, est-ce que ça nous coûtera pas trop cher de prendre soin de nos aînés? C'est vrai, je pense que c'est un choix, mais moi j'ai compris que c'était un choix, par exemple, le jour où j'avais demandé une prise en charge pour une petite aide technique, un petit moteur de fauteuil pour aider une dame qui poussait une autre dame en fauteuil roulant, et les deux dames avaient à peu près le même âge. Donc, autant vous dire que la dame qui poussait était assez âgée et elle n'arrivait plus à emmener la dame dans son fauteuil, dans son parc préféré, qui est le parc Montsouris, qui est un peu en hauteur, parce qu'elle n'arrivait plus à pousser le fauteuil. Donc, j'avais fait une demande d'un petit moteur pour l'aider à pousser le fauteuil et qui, normalement, était pris en charge par la Sécurité sociale. Et je me souviens que le jour où j'ai reçu le courrier de la Sécurité sociale me disant qu'il ne rembourserait plus cet appareil, c'est le jour où a été voté le remboursement de la PMA pour toutes. Et là, je me suis dit, il y a un choix. Voilà. Mmh. Il y a des choix qui sont faits. C'est le même organisme, juste ils répartissent les choses autrement. Voilà, donc c'est un moment, quel honneur on veut avoir, quel choix on fait de société. Je pense vraiment qu'on est devant un choix anthropologique aussi, d'où cette importance de cette soirée des éveilleurs, parce qu'on est vraiment dans une rupture anthropologique dans le rapport à la dignité, mais aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, le rapport au suicide. Ça veut dire qu'on va quand même admettre que des gens qui veulent mourir seront aidés à mourir. Et en ce moment, quand vous tapez suicide assisté sur Google, pour l'instant, vous avez quand même le numéro d'SOS Amitié qui apparaît en premier. Parce qu'en fait, pour l'instant, notre réflexe de société, c'est de se dire... quelqu'un veut mourir, on va l'aider, on va parler, il a peut-être besoin d'un ami. Oui. Tout ce réflexe-là par rapport à la volonté de mourir, il va changer. Donc on est vraiment dans une rupture anthropologique, on est vraiment dans un choix qui est en train de se faire. C'est toute la force d'un choix, c'est que ce n'est pas inéluctable, on peut aussi en faire un autre. En tout cas, voilà, nous jusqu'au bout, j'espère, jusqu'au bout on en fera un autre. Et on n'a pas beaucoup parlé aussi, mais je pense qu'il y a des situations qui ont un petit peu alerté. On parlait tout à l'heure du don d'organes, etc. Franchement, moi, je ne savais pas très bien quoi en penser avant, mais il y a quand même eu une situation en Espagne, il y a quelques mois, alors que la loi était en vote, en seconde lecture à l'Assemblée nationale, une jeune fille en Espagne qui a été euthanasiée contre l'avis de son papa. On a compris derrière qu'il y avait aussi un enjeu de transfert d'organes. Et finalement, ça n'a jamais été très clair, cette histoire. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on l'oublie.
Voilà. Mais il y a tout ce qui est Maastricht 1, Maastricht 2, Maastricht 3, Maastricht 4, Maastricht 5. Et Maastricht 5, si je ne m'abuse, c'est justement qu'est-ce qui se passe quand il y a euthanasie et don d'organes. Je suis tombé sur un pauvre point d'un hôpital belge qui décrit la manière d'euthanasier quelqu'un qui veut que ses organes soient donnés. Et l'espèce de protocole, évidemment, qui est nappé de bienveillance, mais comme un gâteau à la crème, est incapable d'en supporter, est absolument stupéfiant entre l'exigence de performance organique. Il ne s'agit pas, évidemment, en euthanasiant la personne, de dégrader ses organes, et la façon dont on explique que la personne est en train de mourir peu à peu, depuis la chambre où elle a reçu sa première injection, jusqu'à l'endroit où on va l'amener pour être dépecé, et tout ça, bien sûr, étant à chaque page du PowerPoint, on parle parle de bienveillance, d'acceptation, de consentement. C'est tout juste si la famille n'applaudit pas à la fin et qu'on lui fait passer les bocaux dans lesquels gisent le cœur, le rein, le foie et les poumons. On est absolument stupéfait de la manière dont, effectivement, il y a déjà, au niveau européen, des gens qui ont réfléchi à l'euthanasie comme étant une source d'organes corrects. Voilà, pourvu qu'évidemment que la personne soit éligible et que ses organes soient de bonne qualité. Là, en l'occurrence, la personne qui avait décidé de mourir et de donner ses organes dans une espèce d'altruisme dévoyé et qui tenait presque à mourir pour pouvoir donner ses organes, en fait, son corps n'était pas de si bonne qualité que ça, mais voilà, ça aurait été vraiment dommage de ne pas l'ériger en exemple de vertu citoyenne. Dans cette... dans cette réunion donc du 4 juin à 20h30 à l'auditorium Marbeau, rue Boissière, dans le 16e arrondissement. Elisabeth Ducouage, vous intervenez donc en tant que soignante, oui. Donc en unité Alzheimer aujourd'hui, mais après toutes ces années passées en soins palliatifs. Qu'attendez-vous de la soirée? Est-ce que il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous? Est-ce que Raphaël Enthoven ou Alexis Burnot vont expliquer que l'euthanasie c'est quelque chose de très bien, ou est-ce que vous avez quand même réuni un plateau où, a priori, tout le monde est à peu près d'accord, avec des points de vue différents?
Il y aura un système de plusieurs tables rondes qui vont se succéder les unes après les autres. Moi, je sais que je suis à une table ronde avec un médecin avec qui je suis plutôt... on est plutôt dans les mêmes positions vis-à-vis de cette loi, un médecin de soins palliatifs, docteur Burnot. Mais oui, en effet, tout le monde ne sera pas forcément du même avis. Moi, je crois la force du témoignage. En tout cas, ce que j'ai vécu, vu et entendu a vraiment existé. Donc, je l'amènerai tel quel. Et je trouve ça extrêmement intéressant qu'il y ait cette vision un peu aussi philosophique, journalistique, etc. Et je pense que c'est d'autant plus intéressant, et je fais paradoxalement un lien avec le sujet juste avant, la vision organique des choses. En fait, il faut se rappeler que la philosophie des soins palliatifs et de l'accompagnement de la fin de vie, c'est de considérer la personne dans toutes ses dimensions, qu'on n'est pas justement face qu'à un corps, on n'est pas que face... on est avec une personne qui a une dimension physique, certes, mais aussi sociale, une dimension psychologique, une dimension spirituelle, une vie intérieure, et que toutes ces réalités-là de la personne doivent être considérées. On n'est pas dans une vision utilitariste de son corps. La réalité de l'accompagnement en soins palliatifs, c'est que vous avez un médecin, un bénévole qui représente la société, un psychologue, un aumônier, un art thérapeute. Il y a énormément de regards qui viennent entourer la personne pour essayer de mieux comprendre le mystère. Elle restera toujours un mystère, mais voilà, mieux comprendre ce qu'elle est. Et du coup, je trouve ça intéressant d'aborder cette question de la fin de vie sous différents angles également, de manière pluridisciplinaire.
Quel est l'avenir du soin de manière générale? On parlait de délit d'entrave tout à l'heure. Est-ce que, si cette loi vient à passer, est-ce que demain, une mère de famille, un père de famille qui emmène son enfant chez le médecin parce qu'il est malade, est-ce que le médecin pourra encore se dire on le met sous antibiotiques et puis vous revenez me voir dans 10 jours si ça va pas mieux, ou au contraire écoutez, est-ce que votre enfant a vraiment envie de se battre? Est-ce que c'est une vraie question, parce que on voit vous donniez l'exemple de la loi Veil en début d'émission, entre ce qui avait été présenté au moment de la loi Veil en 1974. Et ce que nous connaissons aujourd'hui, où l'avortement, dans l'esprit de certains, est quasiment un moyen de contraception, on est en mesure de s'inquiéter. Est-ce que demain, on aura encore des médecins? Est-ce que demain, on pourra encore se soigner, être soigné?
Juste si vous me permettez, juste avant de répondre à votre question, je vais revenir juste sur la soirée.
Je vous en prie.
Pour clarifier bien, justement, le but de la soirée n'est pas d'être un débat contradictoire. C'est pas les pour et les contre et on s'acharne. C'est vraiment de présenter les différentes implications et les différents aspects de la question de l'euthanasie, de cette loi en particulier. Donc il y aura une première discussion politique et sociale, une discussion sur les soins palliatifs et l'aspect très médical, et effectivement un débat entre Laurent Frémont et Raphaël Enthoven, mené par Eugénie Bastier. Pour le côté très politique. Mais donc ça se veut vraiment un moment de réflexion et de pensée plus que de dispute.
Que de confrontation. Voilà.
Ça, c'était juste pour la soirée. Alors, pour répondre à votre question sur l'avenir du soin, bon, il est toujours difficile de prévoir l'avenir, évidemment, mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que cette loi sur l'euthanasie, si elle passe, va évidemment fragiliser, voire rompre la relation de confiance des Français avec leurs médecins. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est assez frappant, je trouve. Moi, je ne fais pas du tout partie du monde médical, mais il y a quelque chose que je trouve assez frappant, c'est que presque tout le monde, à part des personnes qui ont eu de très mauvaises expériences, mais presque tout le monde un jour dans sa vie a rencontré un médecin qui a été bon pour lui et a l'idée que d'une certaine manière le médecin veut son bien.
Voilà. Oui, depuis toujours le médecin est figure
exactement.
D'autorité.
Et puis quand on est enfant, il y a les premiers vaccins, ils nous donnent un bonbon, ils nous encouragent. Enfin, il y a cette espèce d'imaginaire collectif, enfin pas d'imaginaire, mais de mémoire collective que le médecin évidemment est une personne qui nous veut du bien, même si on a toujours un peu peur de le voir parce que si on le voit, c'est que globalement on a un truc qui va pas. Mais il y a quand même cette confiance. Il est sûr qu'à partir du moment où on sait que le médecin peut être quelqu'un qui a tué. Alors évidemment, c'est pas celui qu'on va voir pour une angine, c'est pas quelqu'un qui aura pratiqué une euthanasie, mais il n'empêche que le médecin peut devenir quelqu'un qui tue, ou qui accompagne un suicide, ou qui accompagne une mort. Et bien évidemment que dans la représentation, le métier, enfin la confiance sera pas la même, et le mot médecin ne renverra pas à la même chose. Ça c'est pour la dimension plus culturelle et de représentation. Pour le médecin lui-même, c'est évidemment encore pire. C'est-à-dire que... j'imagine que quand on se lance dans des études de médecine, quand on rentre dans le monde médical, c'est dans la perspective de soigner et d'accompagner et non pas de devoir un jour être celui qui tue. Et donc, les médecins qui vont être confrontés à cette énorme pression, vous disiez qu'il va y avoir la question du délit d'entrave. Ça, j'imagine que c'est terrible pour les soignants et les médecins en ce moment de se dire que peut-être un jour, ils pourraient être condamnés pour avoir essayé d'encourager quelqu'un à ne pas mourir. Donc, le médecin va être confronté à un problème auquel il n'aurait pas dû être confronté. Ça n'aurait pas dû. Quand il est devenu médecin, il n'est pas devenu médecin pour ça. Et donc, c'est injuste. C'est injuste et c'est tragique et dramatique pour eux. Et donc, qu'est-ce que ça va donner pour les vocations qu'est-ce que ça va donner pour les jeunes gens qui se posent aujourd'hui la question de savoir ce qu'ils vont faire? Moi, je suis professeur, donc je travaille en lycée. Et je sais, par exemple, que cette question est déjà assez douloureuse et difficile pour les jeunes gens qui voudraient devenir infirmière. Enfin, infirmier ou infirmière, mais bon, c'est plutôt les jeunes filles. Donc, jeunes filles qui se posent la question du métier d'infirmière, la question de la place de l'avortement en France aujourd'hui, et pour beaucoup d'entre elles, et même la question de la contraception, et pour beaucoup d'entre elles, une vraie crainte, une vraie peur, et donc pousse certaines à renoncer à ce désir-là. Donc, si vous rajoutez à ça l'euthanasie, voilà, évidemment, c'est j'imagine que ça va évidemment briser des vocations. Donc pour l'avenir du soin, je pense pas, enfin, on rentre pas directement dans le scénario catastrophe qu'il n'y aura plus de soins, mais c'est sûr que la confiance sera abîmée, l'envie de devenir médecin sera fragilisée et la sérénité du malade dans l'hôpital envers son médecin sera évidemment fragilisée parce que on en parlait dans les critères, il y a normalement la possibilité d'avoir un consentement libre et éclairé pour le malade. Que va donner cette clause dans les années à venir? On l'a très bien vu avec Vincent Lambert, par exemple. Le cas de Vincent Lambert a été déjà un préquel de toutes les situations à venir qu'on aura, où on est face à quelqu'un qui n'avait plus, lui, la possibilité de dire ce qu'il voulait. Et donc, c'est sa femme qui a demandé pour lui une procédure collégiale. En face, il y avait ses parents qui n'étaient pas d'accord. Ça a duré des années. Ça a été un conflit familial, juridique et politique. Et puis, à la fin, il n'a pas été officiellement euthanasié, mais on a arrêté l'hydratation et l'alimentation artificielle, ce qui l'a conduit à mourir. Donc,
longtemps après, d'ailleurs, l'arrêt des soins.
Oui, de fait, je crois que c'est assez long.
Et d'ailleurs, ce qui est fascinant, c'est d'expliquer que c'est un soin que de nourrir et d'abreuver quelqu'un.
Oui.
Et donc, quand on parle d'arrêt des soins, c'est-à-dire on l'a laissé mourir de faim et de soif pendant plusieurs longs jours.
Ouais, c'est un peu sur ça que je voudrais rebondir.
C'est la civilisation.
En effet, c'est même pas qu'une question de se battre. Hein. J'aimerais vraiment dire que aussi soigner quelqu'un, c'est pas forcément faire de l'acharnement thérapeutique. Moi, je pense à une dame comme ça qui était arrivée dans notre clinique avec énormément d'escarres, donc ce sont des plaies de la peau assez importantes. Elle en avait une sur chaque épine de la colonne vertébrale. Elle avait une trace de sonde le long de sa jambe, donc vraiment une peau très abîmée. Et elle-même avait les yeux fermés, les sourcils froncés. On sentait vraiment qu'elle était douloureuse. Elle était toute recroquevillée en position fœtale. Et en fait, ce qu'on a fait quand elle est arrivée, ça a été de laver et nettoyer sa peau pour que les escarres puissent guérir. Et toutes les 2 heures, on la changeait de position. Donc, on allait dans sa chambre toutes les 2 heures pendant des semaines pour la changer de position, pour que la peau puisse petit à petit se résorber, ajouter à ça des crèmes, des soins, des traitements. Et en fait, c'était des soins vraiment actifs, hein, voilà, vraiment on soigne. Et cette dame, petit à petit, on a vu ses yeux s'ouvrir, on a vu ses jambes se déplier, ses bras se détendre. Un jour, elle nous a même souri et le lendemain, elle est partie. Et vous voyez, soigner quelqu'un, c'est aussi l'aider à partir naturellement. Sans accélérer, voilà, c'est donner du prix à ce qu'il reste à vivre et les personnes peuvent partir naturellement. Il ne faudrait pas qu'on s'arrête de soigner parce que c'est les aider à vivre et à partir naturellement.
Elisabeth Ducourage, c'est très important. Enfin, tout ce que vous dites est évidemment non seulement émouvant, juste et intelligent, mais il y a dans cette notion d'acharnement thérapeutique, c'est presque l'un des arguments mobilisés par les partisans de l'euthanasie qui nous expliquent que, on en a trop fait, alors que les soins palliatifs ne consistent pas à faire vivre à tout prix. Il n'y a pas l'idée de mettre la personne sous respiratoire alors même que le cerveau ne réagit plus. En fait, c'est toute la chaîne de soins qui est peut-être à repenser pour éviter l'acharnement thérapeutique et ces grands blessés qu'on sauve alors que la qualité de vie à venir est absolument déplorable. C'est peut-être ça qu'il faut questionner. Une fois qu'on est dans une unité de soins palliatifs, voilà, il y a l'idée d'un passage plus ou moins long vers la mort, ou au contraire d'ailleurs d'un retour à la vie normale.
Absolument.
Dans le cas de Vincent Lambert, ce qui était stupéfiant, c'est qu'il était dans la mauvaise unité,
oui,
d'une certaine manière. C'est qu'on l'avait mis dans un endroit où il était censé mourir vite, et qu'en fait, alors qu'il ne mourrait pas, on l'y a maintenu.
Oui, parce qu'il était dans une... Enfin voilà, j'en ai vu des patients en état végétatif chronique ou post-relationnel, ils peuvent vivre jusqu'à 60, 70, 80 ans. Alors c'est sûr, s'ils ont des infections, on ne les renvoie pas forcément en réanimation. Et je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de questions qui se posent plutôt en réa. Est-ce qu'il faut réanimer tout le monde? Voilà, j'ai pas du tout les réponses, hein, mais voilà, est-ce qu'il fallait réanimer Vincent Lambert? C'est sûr que l'état végétatif chronique, c'est un peu un produit de la médecine. Sauf que le fait est qu'on l'a fait pour Vincent Lambert et qu'à un moment, il faut l'accompagner parce qu'il est là. Après, pour les soins palliatifs, la définition, c'est justement quand on n'est plus dans l'objectif de la guérison, mais du prendre soin. Les Anglais, ils ont vraiment cette distinction, on passe de soigner tout cure à soigner tout care, quoi, vraiment prendre soin. Donc en effet, on n'est plus dans une dimension extrêmement... du coup, ça nous prévient de l'acharnement thérapeutique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de soins. Enfin, il y a énormément de choses à faire pour rendre la vie plus confortable, pour justement éviter les rétractions tendineuses, éviter les escarres, tout ce qui va quand même apparaître avec l'alitement, avec avec les maladies qui sont là. Donc il y a quand même des soins à faire. C'est pas s'accrocher à la vie à tout prix, mais donner du prix à ce qu'il reste à vivre, accompagner cette vie qui part naturellement. Mais c'est vraiment donner du prix à ce qu'il reste à vivre. Et c'est pas l'acharnement thérapeutique. Moi, j'aime bien dire que c'est l'acharnement dans les détails. Et ça va jusqu'à parfois poser un peu de rouge à lèvres sur la lèvre de la personne.
Oui, c'est ça.
Et c'est pas forcément un soin extrêmement technique, mais c'est souvent l'achèvement de toute cette chaîne de soins. Et ça a vraiment de l'importance aussi.
Alors, un des auditeurs nous dit, Aristote ne nous dit pas que nous sommes des êtres autonomes, parler de dignité de l'homme est une impasse, on va pas résoudre la question de la dignité, mais effectivement, c'est un mot qui veut tout et ne rien dire, à mon sens. Ne faudrait-il pas dire plutôt que les hommes sont relationnels, c'est-à-dire, fondamentalement, l'homme est un être en relation, et donc si c'est un être en relation, à ce moment-là, redéfinir la dignité comme étant plutôt la dignité des autres vis-à-vis de celui qui risque d'être laissé seul. En fait, que la dignité de l'homme, elle gît dans la relation et non pas dans une propriété qui lui serait à lui seul donnée. C'est en fait notre dignité à tous, collectif, c'est de faire de reconnaître que cette relation doit être préservée.
Alors la question de la relation est évidemment importante et ça fait partie des caractéristiques de l'être humain, du fait que nous avons des relations particulières puisque nous avons des relations à la fois affectives, rationnelles, raisonnables, enfin plein de types de relations. En revanche, définir l'homme par la relation est insuffisant et potentiellement dangereux parce que ça veut dire que, en fait, pour le sujet qui nous intéresse, si on réfléchit à ça par rapport à la question de l'euthanasie ou de ce genre de ces lois, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe pour un être qui justement n'a plus de relation, celui ou plus, où on n'a jamais plus du tout de relation, parce que quoi qu'il arrive, on est citoyen d'un pays en général, ou... mais celui qui justement n'a plus de parents.
Surtout, on est fils de quelqu'un.
Bien sûr, mais celui qui n'a plus concrètement de relation. Plus de parents, plus d'enfants, pas d'amis, qui est seul, ou en tous les cas qui se sent seul. Ça veut dire qu'on retombe vraiment dans cette idée que le propre de l'homme est lié à quelque chose qui est extérieur à lui. Et que donc, si vous êtes seul ou si vous vous sentez seul, si vous avez l'impression de ne plus avoir de relation, ça veut dire que votre vie ne vaut plus la peine. Donc, c'est un peu la même chose que l'augmentation, la capacité. À partir du moment où on est plus autonome, plus capable, plus augmenté, mais qu'on diminue, ben on ne vaut plus la peine. Donc, à partir du moment où on n'a plus de relation, on ne vaut plus la peine. En fait, la valeur de la vie ne peut pas être quantifiée avec un élément extérieur. Elle est le propre de la nature de l'homme. Et bien sûr que nous sommes par relation, parce que nous naissons de parents et que nous sommes compris dans un ensemble de relations familiales, politiques et amicales, évidemment, et que c'est elle qui nous porte et qui nous élève. Mais en revanche, quand nous mourrons, d'une certaine manière, nous serons seuls. Enfin, le moment de la mort se vit quoi qu'il arrive, individuellement et en soi.
Très bien. Les auditeurs posent des questions, nous les relayons. Je vous ai fait passer, Elisabeth de Courrèges, une réflexion de quelqu'un qui effectivement est tout à fait valide, en tout cas dans ce questionnement. Toujours un point aveugle dans vos propos sur l'euthanasie, les 160 000 tentatives de suicide par an et les 12 000 hélas réussies. Rien à faire dans ce naufrage humain générateur de douleur. Mes visites dans les EHPAD m'ont hélas montré l'abandon et la souffrance des aînés maintenus à coups d'antidépresseurs. Vous pouvez caricaturer le sujet, alors j'espère qu'on ne nous a pas donné l'impression qu'on le caricaturait, mais vous ne pouvez pas omettre certaines données. Donc, que répondez-vous à cet auditeur? Est-ce qu'effectivement, dans les EHPAD, dans votre soin et dans votre pratique et dans celle que vous partagez avec d'autres, que répondre à ces gens isolés, tentés par le suicide et assommés de médicaments? Ou au contraire, et parfois d'ailleurs avec le Rivotril, assommé autrement.
Oui, bon après, tous les antidépresseurs ne sont pas mauvais, il y a des choses qui sont, c'est une question de dosage aussi, hein, parce que certains permettent aux gens de retrouver goût à certaines activités, donc bon, c'est une question un peu de dosage, mais j'imagine en effet que c'est plutôt dans des situations un peu extrêmes que la personne décrit. En fait, j'ai envie de dire, j'espère que... j'aurais aimé que ce modèle des soins palliatifs qui existe aussi en équipe mobile, qui existe aussi en lits identifiés de soins palliatifs, c'est pas que des unités hospitalières ciblées, mais il y a aussi des équipes qui se déplacent. J'aurais aimé que tous les établissements puissent bénéficier de ces passages d'équipes mobiles. Après, il y a aussi des EHPAD qui font les choses très bien, hein, qui savent très bien accompagner les personnes en fin de vie et avoir une vraie démarche palliative en interne. Et dans les EHPAD pour lesquels c'est plus compliqué, voilà, j'aurais aimé que ce modèle puisse se propager. C'était un peu le but de la loi Leonetti déjà dès 2005, créer des équipes mobiles pour aller sur tous ces sites où on accompagne la fin de vie. Le but des équipes mobiles, c'était même de disparaître à la fin, puisque tous les lieux étaient censés pouvoir être un peu sensibilisés, formés à la culture palliative. Bon, le fait est qu'elles existent toujours et qu'elles se déplacent toujours et qu'elles sont un peu saturées de demandes. Donc, il y avait encore tellement à faire, en fait, avant de passer cette loi pour aider ces établissements en difficulté. Ce sujet du suicide, on en a parlé. Je pense que ça va beaucoup changer notre rapport au suicide. Et les personnes âgées, on va beaucoup leur faire peser. Enfin, en fait, imaginez dans un EHPAD, Madame M, dans une chambre, qui demande l'aide active à mourir, qui a 75 ans... telle ou telle pathologie, et sa voisine qui en a 90, 3 pathologies de plus, et qui se dit, je suis plus âgée, plus malade, est-ce qu'il ne faudrait pas que je demande l'aide active à mourir, parce que ma voisine, elle l'a demandé, est-ce que je ne vais pas peser un petit peu sur le système, sur ma famille, enfin, voilà, ce que ça va renvoyer à une autre personne d'un même étage, moi, c'est ça qui me fait peur pour nos aînés, voilà, c'est cette culpabilité de vivre qu'on va peut-être leur causer, leur créer.
Victor de Gégère, ne doit-on pas remarquer que sur ces sujets de l'euthanasie, de la GPA, de l'avortement, etc., les hommes de l'État exploitent sans vergogne l'instinct de compassion et d'altruisme qui est au centre de la cohésion sociale au profit de leur but idéologique et de gestion sociale?
Oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que, et c'est une des raisons, je pense, qui rend ces sujets si difficiles à traiter de manière rationnelle, c'est que on en parle tout le temps sous le biais émotionnel. Donc c'est toujours ce qui va être mis en avant sont les cas de figure douloureux, les situations un peu critiques, l'empathie. Voilà, et ce dont on parlait tout à l'heure, un peu l'identification. Donc tout ça est traité de manière très émotionnelle, ce qui fait que quand on arrive avec des... peut-être avec quand on essaye de remonter le sujet au niveau des principes ou de la raison et la rationalité, on peut passer un petit peu pour des gens sans cœur. Sur la question de l'euthanasie, par exemple, on va nous dire mais en fait, vous voulez que les gens souffrent pendant très longtemps et qu'ils aient une fin de vie douloureuse et qu'ils rentrent en agonie. Mais vous êtes horrible.
Vous voulez que les gens souffrent.
Exactement, c'est terrible. Et en fait, c'est parce que ce sujet est traité émotionnellement, ça c'est une première raison. Et il y a probablement une autre raison de fond, c'est qu'en fait, nous vivons dans un système assez hédoniste. L'hédonisme étant un courant philosophique assez ancien, hein, mais qu'on retrouve aujourd'hui assez fort, qui prône, en fait, qui dit qu'à partir du moment où nous sommes des êtres sensibles, des êtres de sensibilité, eh bien, ce qui est bien, c'est de ne pas souffrir. Ce qui est mal, c'est de souffrir. Et donc, si vous acceptez la souffrance, vous êtes soit fou, soit pervers. Voilà. Et donc, d'accepter que la souffrance fasse partie de nos vies, c'est incompréhensible. C'est très difficilement compréhensible pour le monde contemporain. Donc, si on accepte de laisser les gens souffrir longtemps, nous sommes des monstres. Voilà.
Et donc, effectivement, voilà, c'est ce ressort sentimental qui justifie, en fait, une dérive particulièrement grave. Et on voit bien que si on écoute Elisabeth de Courage, on a un sentiment, lui aussi, totalement contraire. Et on n'est pas dans la compassion, au contraire, on est dans une certaine cruauté. Je rappelle que Elisabeth de Courage et Victoire de Gégère seront l'une et l'autre, pas forcément sur scène en même temps, mais en tout cas ensemble à cette... soirée consacrée à l'euthanasie à l'espace Marbeau, 69 rue Boissière, dans le 16e arrondissement, le 4 juin, donc après-demain, à 20h30. Vous pouvez encore vous inscrire. Il suffit d'aller sur...
le site des éveilleurs.
Donc leséveilleurs.com, voilà, évidemment sans accent et tout attaché. Eugénie Bastier, François Braun, Raphaël Enthoven, Philippe Juvin, Laurent Frémont, Alexis Burneau et Elisabeth de Courège. Bah, il nous reste 25 secondes, un mot de la fin.
Je vais peut-être revenir un petit peu sur cette vision, voilà, la dignité propre à tout être humain. C'est, moi, je parle sous le contrôle de la professeure de philosophie, mais c'est Kant qui disait ça, que les êtres humains ont une dignité, et il disait même, et cela serait vrai même si Dieu n'existait pas. Alors voilà, moi je crois aussi que Dieu confère une dignité à chacun, mais il y a tout un registre de pensée philosophique qui a aussi bâti l'Europe et qui a estimé que les êtres humains étaient tous dignes, à la différence justement de Hegel qui disait que c'était plutôt le regard qu'on posait sur la personne qui était plus ou moins digne. Mais en fait, non, la personne, elle est digne indépendamment de ce regard qu'on pose. Et on a à tout faire et voilà, à mettre tout en œuvre, nous en tant que soignants, mais toute la société aussi, pour répondre à la souffrance, non par la mort, mais par la qualité des soins et par l'amour.
Merci beaucoup, Elisabeth de Courège, et merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous ce soir et demain. C'est Arthur de Vatrigan qui vous accueillera dans son Restons Courtois.
Ça suffit maintenant.